Alors, vous l'avez déjà connu dans cette émission. Je l'ai appelé avec le temps affectueusement mon Wawaron. Parce que j'avais traité Antoine de crapaud.
Oui.
Et à un moment donné, Alec Castonguay, t'as fini par devenir le Wawaron du couple.
Oui. T'étais qui, toi, donc, dans le trio? Je me souviens plus.
Moi, j'étais la gentille grenouille verte.
Oui, c'est ça, la gentille grenouille verte.
Alors, tu vas bien?
Hey, je vais très bien. Je suis très content d'être ici avec toi. Ça fait, ça me fait remonter toutes sortes de souvenirs fort agréables.
Oui, j'allais dire plutôt sympathique.
Ouais, ouais.
Alors, je rappelle évidemment que tu es le chef du bureau politique au magazine L'Actualité.
Oui.
Et tu es aussi analyste à la radio et à la télé de Radio-Canada. Et là, tu as écrit ce livre, Le printemps le plus long, au cœur des batailles politiques contre la COVID-19. C'est publié chez Québec Amérique. Alec, tu as donné quand même un certain nombre d'entrevues sur ton livre.
Oui.
Dis-moi s'il y a une chose que tu as qui t'a frappé comme une tonne de briques au terme de tous ces entretiens, de toutes ces entrevues. Mettons ta plus grande surprise.
Mon Dieu, écoute, sur 392 pages, j'ai tellement eu de surprises. Honnêtement, je pensais, parce que je suis l'actualité de très près, tout comme toi, tout comme beaucoup de nos auditeurs aujourd'hui là, qui suivent ça depuis un an, je me disais, bon, on en sait quand même beaucoup. Et malgré tout, j'ai tellement découvert de choses que de mettre le doigt sur un seul élément. Écoute, il y en a beaucoup, mais peut-être le fait qu'on a été très long au Québec avant de confirmer que les asymptomatiques transmettaient la maladie, alors que dans le fond, on avait déjà un débat scientifique en cours depuis la fin du mois de janvier, puisque la première étude est sortie d'Allemagne à la fin du mois de janvier. Puis il y a eu un débat scientifique. Je ne jette pas la pierre à la santé publique québécoise. Il y a d'autres santé publiques dans le monde qui ne croyaient pas non plus que les asymptomatiques transmettaient à ce point la maladie.
Quand est-ce qu'on en a pris acte, nous, ici?
Ici au Québec, à la fin du mois de mars.
Et
l'OMS, pour la première fois, a reconnu leur existence seulement le 2 avril. Puis nous, dans la troisième semaine de mars, on s'est dit au Québec, ben c'est vrai que l'incidence est peut-être plus importante qu'on pensait. Mais pendant tout le mois de février puis le début mars, on s'est un peu laissé porter par le débat scientifique. Est-ce que ça se peut? À quel point ils sont vraiment à la source de la contagion? Et ça a fait en sorte que quand on a commencé à mettre des mesures en place, notamment dans les CHSLD où la tragédie a été importante, bien, on a beaucoup sous-estimé la contagion des asymptomatiques. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'on dise, par exemple, aux préposés aux bénéficiaires ou aux infirmières de porter le masque en présence des résidents. C'est arrivé seulement à la fin du mois de mars, donc quand même 2 semaines plus tard, après le début du mode urgence. Alors qu'on avait donc, évidemment, déjà entré le virus dans ces endroits-là, parce que les résidents de CHSLD, ils sortent pas, là. On s'entend que
c'est les employés, c'est les employés.
Et comme on avait un manque d'équipement de protection individuelle, on avait un manque de formation en prévention et contrôle des infections, et on a sous-estimé les asymptomatiques, bien, la tragédie s'est produite. Je dis pas que ça aurait été beaucoup plus simple de si on l'avait su beaucoup plus tôt, parce que, bon, les gens étaient-ils prêts à ce moment-là à déjà porter le masque? Est-ce qu'on aurait imposer des mesures aussi sévères, là, il y avait tellement de choses en même temps que je ne suis pas certain que les asymptomatiques, c'était la seule chose à comprendre. Mais ça m'a étonné quand même qu'on prenne autant de temps avant de s'en rendre compte.
Dirais-tu que c'est la plus mauvaise décision qu'on a prise dans cette crise-là? Parce que je vais te demander après, les meilleures décisions selon toi, mauvaises qu'on a prises, est-ce que ça n'est une?
La mauvaise décision, c'est pas une seule décision, c'est un problème davantage philosophique. C'est qu'au début de la crise, on a perçu les CHSLD comme étant des solutions potentielles et non pas comme un problème potentiel. On n'oublie pas qu'on a transféré 2000 résidents des hôpitaux, des patients, dans les CHSLD dans les premières semaines pour libérer des lits dans les hôpitaux. Et en les transférant dans les CHSLD, on les transférait là parce qu'on se disait, ben ils vont être à l'abri parce que c'est les hôpitaux qui débordent ailleurs, en Italie, puis à New York, puis en France. Donc, on a rempli les CHSLD au début de la crise sans les barricader contre le virus, malgré ce que je te disais, les asymptomatiques, le manque d'équipement de protection, le contrôle, la prévention des infections qui étaient déficients, le manque de main-d'œuvre, faut pas l'oublier, ça c'est important aussi parce que ça obligeait les employés à se déplacer d'un établissement à l'autre. Le gouvernement aurait bien voulu faire cesser ça, mais il y avait simplement pas le nombre de personnes pour le faire. Donc, le fait qu'on ait bien protégé nos hôpitaux, mais complètement négligé les CHSLD, il y a plusieurs décisions autour de ça là, qui ont été prises, mais c'est clairement l'erreur philosophique la plus importante, c'est de se dire, ben, en les plaçant là, ben, on va les sauver. Puis ça a été l'inverse, c'est là que le virus est rentré.
Et dans les bonnes décisions maintenant?
Dans les bonnes décisions, il y en a eu plusieurs. On en parle moins, évidemment, là, parce qu'on se concentre sur les erreurs, puis c'est normal. On a beaucoup mieux préparé, inévitablement, nos hôpitaux que d'autres endroits où on s'est retrouvé submergé et là où les médecins devaient choisir à qui sauver la vie. Il ne faut pas l'oublier, ça, c'est vraiment arrivé, ça, en Italie, à New York, dans certaines régions de la France. On devait choisir à qui sauver la vie parce qu'on manquait de ventilateurs, parce qu'on n'avait pas suffisamment de personnel pour s'en occuper. Ici, nos hôpitaux étaient prêts à recevoir la vague. On ne l'a pas eu aussi forte qu'ailleurs parce que le virus est rentré dans les CHSLD, mais ça, on était prêts. Puis on a fait une transformation extrêmement rapide. En 10 jours, on a doublé notre nombre de lits aux soins intensifs. On a construit presque 600 chambres à pression négative. Je veux dire, le réseau n'a jamais été aussi opérationnel que pendant ces 10 jours-là pour se préparer au virus. C'est pas là qu'il a frappé, mais on était prêts. Ça, c'est une bonne chose. Et l'autre bon coup, et je n'ai pas pu l'écrire dans le livre parce que c'est récent, je pense que sur le délai de vaccination, on avait raison.
Oui, sur le 90 jours, là, oui, espacé deux
là,
doses.
Là, les autres provinces sont en train de suivre ce que la santé publique québécoise a décidé en se disant, mais il est assez efficace pour pouvoir retarder la deuxième dose, donc immuniser plus de gens. Ça a été un bon coup de la santé publique dans les dernières semaines aussi. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de mauvais coups, c'est inévitable, mais effectivement, il y a eu quelques bons coups aussi, là.
Qu'est-ce que tu as appris sur la gestion de crise à travers toutes les entrevues que tu as faites? Parce qu'il faut le dire, ce qui est exceptionnel dans ton livre, c'est qu'ils t'ont vraiment donné accès à des gens qui, normalement, ne parlent pas aux médias. Ou en tout cas, quand ils parlent, c'est off the record, c'est certainement pas on the record. Et là, tu as eu accès à des acteurs clés de l'intérieur de la machine.
Oui, il y a eu les conseillers de François Legault, mais même les hauts fonctionnaires, sous-ministres, sous-ministres adjoints, Yves Ouellette, le plus haut fonctionnaire de l'État québécois aussi, à qui j'ai parlé. Tout le monde est cité dans le livre, ils ont accepté donc de parler à micro ouvert pour la première fois. Et ça ajoute beaucoup de perspectives à la crise, parce que c'est eux qui étaient aux commandes de l'État. Les décisions étaient prises au bureau du premier ministre, c'est inévitable, mais après ça, comment on met ça en marche, puis comment on vit les problèmes, ça c'est les sous-ministres puis sous-ministres adjoints qui sont pris avec ça.
Ouais.
Alors, ça ajoutait beaucoup. Et donc, ils ont accepté de me parler, et j'en suis très, très heureux, parce que je pense qu'ils voulaient témoigner de ce qu'ils ont vécu. Et surtout, je leur ai dit, si on veut être capable d'avoir un récit fidèle à la réalité, il faut qu'on soit capable de dire comment vous avez vécu votre crise. C'est pas seulement une question de chiffres ou de faits. Il y a aussi les émotions. C'est des humains qui prennent ces décisions-là et qui sont pris avec parfois avec une crise dans le milieu de la nuit, devoir régler. Mm-hmm. Et si on écrit un livre 5 ou 6 ans plus tard, il va être factuellement peut-être encore plus exact que mon livre parce qu'on va peut-être avoir découvert des documents, on va en savoir plus. Mais il n'y aura jamais le côté comment vous vous sentiez cette nuit-là quand vous avez pris cette décision-là. Oui. Et moi, je pense que dans le récit de la crise, c'est important qu'on comprenne aussi comment ça s'est vécu en haut lieu, ces décisions-là très graves, très importantes, qui avaient des répercussions chaque jour sur les citoyens. Puis en faisant donc les entrevues entre les deux vagues pendant l'été, pendant qu'il y avait un peu moins de cas, qui étaient moins occupés, ça leur a permis de replonger dans leur printemps et de pouvoir me raconter comment ils ont vécu ça. Donc, ça ajoute un côté humain au livre que j'aurais probablement pas eu à avoir eu seulement accès aux archives dans quelques années, par exemple.
Et qu'est-ce que ça dit sur la capacité de l'humain à gérer une crise? Parce que ce qui revient constamment
dans
le livre...
Oui, c'était ça ta première question. Je m'égare.
Non, non, il n'y a pas de problème. Non, c'est ce qui est fascinant, c'est qu'ils sont toujours sous pression, pas assez de sommeil.
Ils doutent constamment. Il avait l'air sûr en se présentant à la conférence de presse de 13h. Hein, j'annonce ci, j'annonce ça. En réalité, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises là, dans le gris, c'était pas noir ou blanc. On avait souvent des chiffres très déficients pour prendre les décisions aussi du côté du gouvernement. Donc, on y allait comme on pouvait, mais on était en retard dans plusieurs données. Alors, il y avait effectivement là, et vraiment, François Legault gère avec une très petite équipe. Vous remarquerez en lisant le livre qu'il n'y a pas beaucoup de ministres qui sont cités parce qu'ils n'ont pas joué un rôle important, mis à part quelques exceptions. Évidemment, Daniel Mécan en est une exception. Mais les autres étaient souvent mis devant le fait accompli ou ils étaient prévenus trois, quatre...
Ou ils l'apprenaient pendant le point de presse.
Ils l'apprenaient pendant le point de presse ou alors ils se faisaient dire trois quarts d'heure d'avance, voici, on ferme les écoles, puis voici, ministre Lacombe, on ferme vos garderies. OK. Alors, il y avait dans l'urgence de la situation des décisions qui devaient être prises sans consulter.
Est-ce que c'était la bonne manière de faire, d'après
toi? Je pense que François Legault est capable de vivre avec ça et de l'assumer. Alors que d'autres premiers ministres, et toi, tu suis la politique d'aussi près que moi, ont besoin de consulter de manière importante avant de prendre des décisions. Justin Trudeau, à Ottawa, consulte beaucoup plus, au point où parfois il en est hésitant.
Ben voilà.
Et donc,
ça crée une lenteur.
Ça a été plus long sur les frontières, ça a été plus long sur interdire les voyages ou du moins dissuader les voyages. Ça arrive peut-être à des décisions plus consensuelles, mais dans une crise, l'important, c'est pas le consensus, c'est l'action que tu prends. Donc, je pense que souvent, Ça a servi François Legault, puis il est capable de vivre avec des erreurs en se disant, bon, on va corriger à mesure, on fera un point de presse demain.
Quitte à ce que je m'excuse, ça y est arrivé.
Ça y est arrivé. Évidemment, ça perd un peu en termes d'efficacité de communication, ça crée des incohérences, les listes de services essentiels étaient un peu tout croche quand ça a sorti, inévitablement. On a pris quelques heures pour l'élaborer, on n'a pas pris 3 semaines. Alors, ça a donné il y a eu des conséquences à cette précipitation-là, mais comme on n'avait pas les bons chiffres souvent au lieu ou qu'on n'était pas capable d'avoir une marche à suivre claire de la part des scientifiques parce qu'eux-mêmes ne connaissaient pas très bien le virus, ben avoir à choisir, t'étais aussi bien de fermer plus vite les écoles ou les garderies ou ton économie plutôt que de dire ben, je vais attendre 2 semaines d'avoir les bons chiffres. Puis, c'est un virus qui ne pardonne pas quand on prend son temps pour commencer à y penser.
C'est très bien dit. C'est très bien dit. Ben, en tout cas, je vous invite à l'acheter.
je pense que les gens vont aimer ça parce que c'est pas juste un livre sur la politique.
Non,
tu le dis bien, c'est un livre sur l'humain.
Oui.
Une crise que tout le monde a vécue, puis on va comprendre pourquoi à 13 heures chaque jour on se faisait dire telle ou telle chose. Ouais. Parce que là, on raconte un peu comment on est arrivé à ce type de décision-là. Donc, tout le monde et on était nombreux à suivre la conférence de presse à 13 heures, va y trouver son compte. Et ça, c'était ce que je voulais, que ça se lise un peu comme un roman. Puis je pense qu'il y a bien des gens qui, à date, là, les commentaires que j'ai sont plutôt bons.
Il y en a beaucoup, effectivement, qui me disent ça, que ça se lit comme un roman. J'ai commencé, puis je pouvais pas arrêter, ce qui est un des plus beaux compliments.
Ben oui, absolument.
Quand on écrit un livre.
Ça me fait au chaud.
Laisse-moi te poser la question plate. Ça se vend combien, ton livre, mon Alec?
29,95 en papier, le bon vieux papier que vous trouvez à la librairie. Il est disponible à 19,95 si vous l'achetez sur votre Kindle, Kobo ou autre liseuse électrique.
Très bien, mon cher Alec. Ça a été un plaisir de se retrouver.
Merci de m'avoir reçu.
Bon, ça fait vraiment plaisir. Et puis, bonne suite des choses.
Salut. À bientôt.
L'avenir est long. On sait jamais, Alec Castonguay, l'avenir est long. Merci beaucoup. Bravo pour le livre. Après la pause, je vous lance tout de suite. Je vous relance, en fait, parce que vous avez déjà commencé à m'écrire. Je vous ai demandé, est-ce que la pandémie a été payante pour vous? Avez-vous mis de l'argent de côté? Est-ce que vous avez payé certaines choses, certaines dettes? Est-ce que vous avez fait un investissement? Parce que, qu'est-ce que tu veux? Il y a des dépenses que tu faisais que tu fais plus. Fait que vous avez fait quoi avec cet argent-là là, que vous auriez dépensé, mettons, pour un voyage? Vous êtes déjà nombreux qui m'avez écrit à Drainville, à commercial 985fm.ca. Continuez. Texto 98985. Puis après la pause au 790-9850, je vais prendre quelques appels. On continue.